Chapitre 2. L'alba vinceva l'ora mattutina, che fu già innanzi, sì che di lontano, conobbi il tremolar della marina. Purgatorio 1. Le craft était originaire d'Anvers. Le vieux Jean-Michel avait quitté le pays, à la suite de frasques de jeunesse, d'une rixe violente, comme il en avait souvent, car il était diablement batailleur, et qui avait eu cette fois un fâcheux dénouement. Il était venu s'établir, presque un demi-siècle avant, dans la petite ville princière, dont les toits rouges aux fêtes pointues et les jardins ombreux, étagés sur la pente d'une molle colline, se mirent dans les yeux verts pâles du Vater Rhein. Excellent musicien, il s'était fait promptement apprécier dans un pays où tous sont musiciens. Il y avait pris racine en épousant, à 40 ans passés, Clara Sartorius, la fille du maître de chapelle du prince, qui lui transmit sa charge. Clara était une Allemande placide qui avait deux passions, la cuisine et la musique. Elle eut pour son mari un culte qu'égalait seul celui qu'elle avait pour son père. Jean-Michel n'admirait pas moins sa femme. Ils avaient vécu en parfait accord pendant 15 ans, et ils avaient eu 4 enfants. Puis Clara était morte, et Jean-Michel, après l'avoir beaucoup pleuré, avait épousé, 5 mois plus tard, Ottilie Schutz, une fille de 20 ans, aux joues rouges, robuste et rieuse. Ottilie avait juste autant de qualités que Clara, et Jean-Michel l'avait aimée juste autant. Après 8 ans de mariage, elle mourut à son tour, non sans avoir eu le temps de lui faire 7 enfants. Au total, 11 enfants, dont un seul avait survécu. Bien qu'il les aimât fort, tant de coups répétés n'avaient pas altéré sa solide bonne humeur. L'épreuve la plus rude avait été la mort d'Ottilie, il y avait 3 ans maintenant, à un âge où il est malaisé de se rebâtir une vie et de fonder un nouveau foyer. Mais après un moment de désarroi, le vieux Jean-Michel avait repris son équilibre moral qu'aucun malheur n'était capable de lui faire perdre. C'était un homme affectueux, mais la santé chez lui était plus forte que tout. Il avait une répulsion physique pour la tristesse et un besoin de grosse gaieté à la flamande, un rire énorme et enfantin. Quelque chagrin qu'il eût, il n'en buvait pas une rasade de moins, ni n'en perdait un coup de dent à table. Et la musique ne chômait jamais. Sous sa direction, l'orchestre de la cour acquit une petite célébrité dans les pays rhénans, où Jean-Michel était devenu légendaire par sa stature athlétique et par ses accès de colère. Il ne pouvait se maîtriser malgré tous ses efforts, car cet homme violent était au fond timide et craignait de se compromettre. Il aimait le décorum et redoutait l'opinion, mais son sang l'emportait. Il voyait rouge, et il était pris brusquement par des impatiences folles, non seulement aux répétitions de l'orchestre, mais en plein concert, où il lui était arrivé, devant le prince, de jeter son bâton avec rage et de trépigner comme un possédé, en apostrophant un de ses musiciens d'une voix furieuse et bredouillante. Le prince s'en amusait, mais les artistes mis en cause lui gardaient rancune. En vain Jean-Michel, honteux de son incartade, s'évertuait, l'instant d'après, à la faire oublier par une obséquiosité exagérée. À la première occasion, il éclatait de plus belle, et cette extrême irritabilité, augmentant avec l'âge, finit par rendre sa position difficile. Il le sentit lui-même, et un jour qu'une de ses crises de colère avait failli amener une grève de l'orchestre, il offrit sa démission. Il espérait qu'après ses services, on ferait des difficultés pour l'accepter, qu'on le supplierait de rester. Il n'en fut rien. Et comme il était trop fier pour revenir sur son offre, il partit, navré, accusant l'ingratitude des hommes. Depuis ce temps, il ne savait comment remplir ses journées. Il avait 70 ans passés, mais il était vigoureux encore. Il continuait de travailler et de courir par la ville, du matin au soir, donnant des leçons, discutant, pérorant, se mêlant de tout. Il était ingénieux et cherchait tous les moyens de s'occuper. Il se mit à réparer les instruments de musique. Il imaginait, essayait, trouvait parfois des perfectionnements. Il composait aussi, il s'évertuait à composer. Il avait écrit jadis une Missa Solemnis dont il parlait souvent et qui était la gloire de la famille. Elle lui avait demandé tant de peine qu'il avait failli avoir une congestion en l'écrivant. Il tâchait de se persuader que c'était une œuvre de génie. Mais il savait très bien dans quel néant de pensée il l'avait écrite. Et il n'osait plus revoir le manuscrit, parce qu'à chaque fois, il reconnaissait dans les phrases qu'il croyait siennes des lambeaux d'autres auteurs, péniblement mis bout à bout à coup de volonté. Ce lui était une grande tristesse. Il lui venait parfois des idées qu'il trouvait admirables. Il courait à sa table avec un frémissement. Tenait-il enfin l'inspiration, cette fois? Mais à peine avait-il la plume en main qu'il se retrouvait seul dans le silence. Et tous ses efforts pour ranimer les voix disparues n'aboutissaient qu'à lui faire entendre des mélodies connues de Mendelssohn ou de Brahms. « Il est, dit George Sand, des génies malheureux auxquels l'expression manque, qui emportent dans la tombe l'inconnu de leur méditation, comme disait un membre de cette grande famille de muets ou de bègues illustres, Geoffroy Saint-Hilaire. » Jean-Michel appartenait à cette famille. Il ne parvenait pas plus à s'exprimer en musique qu'en paroles. Et toujours il se faisait illusion. Il eût tant aimé à parler, à écrire, à être un grand musicien, un orateur éloquent. C'était sa plaie secrète. Il n'en disait rien à personne, il ne se l'avouait pas à lui-même. Il tâchait de n'y pas penser, mais il y pensait malgré lui, et cela lui mettait la mort dans l'âme. Pauvre vieux homme! En rien il ne parvenait à être lui-même tout à fait. Il y avait en lui tant de beaux et puissants germes, mais il n'arrivait pas à leur croissance. Une foi profonde, touchante, dans la dignité de l'art, dans la valeur morale de la vie. Mais elle se traduisait, le plus souvent, d'une façon emphatique et ridicule. Tant de noble orgueil. Et dans la vie, une admiration presque servile des supérieurs. Un si haut désir d'indépendance, et en fait une docilité absolue. Des prétentions à l'esprit fort, et toutes les superstitions. La passion de l'héroïsme, un courage réel et tant de timidité. Une nature qui s'arrête en chemin. Jean-Michel avait reporté ses ambitions sur son fils, et Melchior promit d'abord de les réaliser. Il avait dès l'enfance de grands dons pour la musique. Il apprenait avec une facilité remarquable, et de bonne heure il acquit, comme violoniste, une virtuosité qui fit de lui pendant longtemps le favori, presque l'idole des concerts de la cour. Il jouait aussi fort agréablement du piano et d'autres instruments. Il était beau parleur, bien fait, quoiqu'un peu lourd, le type de ce qui passe en Allemagne pour la beauté classique, un large front inexpressif, de gros traits réguliers et une barbe frisée, un Jupiter des bords du Rhin. Le vieux Jean-Michel savourait le succès de son fils. Il était en extase devant les tours de force du virtuose, lui qui n'avait jamais su jouer proprement d'aucun instrument. Ce n'était certes pas Melchior qui eût été en peine pour exprimer ce qu'il pensait. Le malheur est qu'il ne pensait rien, et il ne s'en souciait même pas. Il avait tout juste l'âme d'un comédien médiocre qui soigne ses inflexions de voix sans s'occuper de ce qu'elles expriment et surveille avec une vanité anxieuse leur effet sur le public. Le plus curieux, c'est que chez lui, malgré son souci constant de l'attitude en scène, comme chez Jean-Michel, malgré son respect craintif des conventions sociales, il y avait toujours quelque chose de saccadé, d'inattendu, d'hurluberlu, qui faisait dire aux gens que tous les crafts étaient un peu timbrés. Cela ne lui nuisit pas d'abord. Il semblait que ses excentricités même fussent la preuve du génie qu'on lui prêtait. Car il est entendu, parmi les gens de bon sens, qu'un artiste n'en saurait avoir. Mais on ne tarda pas à être fixé sur le caractère de ses extravagances. La source ordinaire en était la bouteille. Nietzsche dit que Bacchus est le dieu de la musique. Et l'instinct de Melchior était du même avis. Mais en ce cas, son Dieu fut bien ingrat. Loin de lui donner les idées qui lui manquaient, il lui enleva le peu de celles qu'il avait. Après son absurde mariage, absurde aux yeux du monde et par conséquent au sien, il s'abandonna de plus en plus. Il négligea son jeu, si sûr de sa supériorité qu'en peu de temps il la perdit. D'autres virtuoses survinrent, qui lui succédèrent dans la faveur publique. Cela lui fut amer. Mais, au lieu de réveiller son énergie, ses échecs achevèrent de le décourager. Il se vengeait, en déblatérant contre ses rivaux, avec ses compagnons de cabaret. Il comptait, dans son absurde orgueil, succéder à son père, comme directeur de musique. Un autre fut nommé. Il se crut persécuté et prit des airs de génie méconnu. Grâce à la considération dont jouissait le vieux Kraft, il garda sa place de violon à l'orchestre. Mais il perdit peu à peu presque toutes ses leçons en ville. Et si ce coup était le plus sensible à son amour-propre, il l'était encore plus à sa bourse. Depuis quelques années, les ressources du ménage avaient bien diminué, par suite de revers de fortune. Après avoir connu une réelle abondance, la gêne était venue et croissait de jour en jour. Melchior refusait de s'en apercevoir. Il n'en dépensait pas un sou de moins pour sa toilette et son plaisir. Il n'était pas un mauvais homme, mais un homme demi-bon, ce qui est peut-être pire, faible, sans aucun ressort. Sans force morale, au reste, se croyant bon père, bon fils, bon époux, bon homme, et peut-être l'étant, si pour l'être il suffit d'une bonté facile qui s'attendrit aisément, et de cette affection animale qui fait qu'on aime les gens comme une partie de soi. On ne pouvait même pas dire qu'il fût très égoïste. Il n'avait pas assez de personnalité pour l'être. Il n'était rien. Terrible chose dans la vie que ces gens qui ne sont rien. Comme un poids inerte qu'on abandonne en l'air, ils tentent à tomber. Il faut absolument qu'ils tombent. Et ils entraînent dans leur chute tout ce qui est avec eux. Ce fut au moment où la situation de la famille devenait le plus difficile que le petit Christophe commença à comprendre ce qui se passait autour de lui. Il n'était plus seul enfant. Melchior faisait un enfant à sa femme chaque année, sans s'inquiéter de ce qui en arriverait plus tard. Deux étaient morts en bas âge. Deux autres avaient 3 et 4 ans. Melchior ne s'en occupait jamais. Louisa, forcée de sortir, les confiait à Christophe, qui avait maintenant 6 ans. Il en coûtait à Christophe, car il devait renoncer pour ce devoir à ses bonnes après-midi dans les champs. Mais il était fier qu'on le traitât en homme, et il s'acquittait de sa tâche gravement. Il amusait de son mieux le petit en leur montrant ses jeux, et il s'appliquait à leur parler, comme il avait entendu sa mère causer avec le bébé. Ou bien il les portait dans ses bras, l'un après l'autre, comme il avait vu faire. Il fléchissait sous le poids, serrant les dents, pressant de toute sa force le petit être contre sa poitrine pour qu'il ne tombât pas. Les petits voulaient toujours être portés. Ils n'en étaient jamais là. Et quand Christophe ne pouvait plus, c'était des pleurs sans fin. Ils lui donnaient bien du mal, et il était souvent fort embarrassé d'eux. Ils étaient sales et demandaient des soins maternels. Christophe ne savait que faire. Ils abusaient de lui. Il avait envie parfois de les gifler. Mais il pensait, ils sont petits, ils ne savent pas. Et il se laissait pincer, taper, tourmenter, avec magnanimité. Ernst hurlait pour rien. Il trépignait, il se roulait de colère. C'était un enfant nerveux, et Louisa avait recommandé à Christophe de ne pas contrarier ses caprices. Quant à Rodolphe, il était d'une malice de singe. Il profitait toujours de ce que Christophe avait Ernst sur les bras, pour faire derrière son dos toutes les sottises possibles. Il cassait les jouets, renversait l'eau, salissait sa robe, et faisait tomber les plats en fouillant dans le placard. Si bien que lorsque Louisa rentrait, au lieu de complimenter Christophe, elle lui disait, sans le gronder, mais d'un air chagrin, en voyant les dégâts, « Mon pauvre garçon, tu n'es pas bien habile. » Christophe était mortifié, et il avait le cœur gros. Louisa, qui ne laissait échapper aucune occasion de gagner un peu d'argent, continuait à se placer comme cuisinière dans les circonstances exceptionnelles, les repas de noces ou de baptême. Melchior feignait de n'en rien savoir, cela froissait son amour-propre. Mais il n'était pas fâché qu'elle le fît, sans qu'il le sût. Le petit Christophe n'avait encore aucune idée des difficultés de la vie. Il ne connaissait d'autres limites à sa volonté que celles de ses parents, qui n'étaient pas bien gênantes, puisqu'on le laissait pousser à peu près au hasard. Il n'aspirait qu'à devenir grand pour pouvoir faire tout ce qu'il voulait. Il n'imaginait pas les contraintes où l'on se heurte à chaque pas. Et surtout, il n'eût jamais pensé que ses parents ne fussent pas entièrement maîtres d'eux-mêmes. Le jour où il entrevit pour la première fois qu'il y avait parmi les hommes des gens qui commandent et des gens qui sont commandés, et que les siens et lui n'étaient pas les premiers, tout son être se cabra. Ce fut la première crise de sa vie. Ce jour-là, sa mère lui avait mis ses habits les plus propres, de vieux habits donnés dont l'ingénieuse patience de Louisa avait su tirer parti. Il alla la rejoindre, comme elle le lui avait dit, dans la maison où elle travaillait. Il était intimidé à l'idée d'entrer seul. Un valet flânait sous le porche. Il arrêta l'enfant et lui demanda d'un ton protecteur ce qu'il venait faire. Christophe balbutia en rougissant qu'il venait voir Madame Kraft, ainsi qu'on le lui avait recommandé de dire. « Madame Kraft, qu'est-ce que tu lui veux à Madame Kraft ?» continua le domestique en appuyant ironiquement sur le mot « Madame ». « C'est ta mère ? Monte là, tu trouveras Louisa à la cuisine au fond du corridor. » Il alla de plus en plus rouge. Il avait honte d'entendre appeler sa mère familièrement Louisa. Il était humilié. Il eût voulu se sauver près de son cher fleuve, à l'abri des buissons, où il se contait des histoires. Dans la cuisine, il tomba au milieu d'autres domestiques, qui l'accueillirent par des exclamations bruyantes. Au fond, près des fourneaux, sa mère lui souriait d'un air tendre et un peu gêné. Il courut à elle et se jeta dans ses jambes. Elle avait un tablier blanc et tenait une cuillère en bois. Elle commença par ajouter à son trouble, en voulant qu'il levât le menton, pour qu'on vît sa figure, et qu'il alla tendre la main à chacune des personnes qui étaient là, en leur disant bonjour. Il n'y consentit pas. Il se tourna contre le mur et se cacha la tête dans son bras. Mais peu à peu, il s'enhardit, et il risqua hors de sa cachette un petit œil brillant et rieur qui disparaissait de nouveau toutes les fois qu'on le regardait. Il observa les gens à la dérobée. Sa mère avait un air affairé et important qu'il ne lui connaissait pas. Elle allait d'une casserole à l'autre, goûtant, donnant son avis, expliquant d'un ton sûr des recettes que la cuisinière ordinaire écoutait avec respect. Le cœur de l'enfant se gonflait d'orgueil en voyant combien on appréciait sa mère et quel rôle elle jouait dans cette belle pièce, ornée d'objets magnifiques, d'or et de cuivre qui brillaient. Brusquement, les conversations s'arrêtèrent. La porte s'ouvrit. Une dame entra avec un froissement d'étoffe raide. Elle jeta un regard soupçonneux autour d'elle. Elle n'était plus jeune, et pourtant elle portait une robe claire avec des manches larges. Elle tenait sa traîne à la main pour ne rien frôler. Cela ne l'empêcha pas de venir près du fourneau, de regarder le plat et même d'y goûter. Quand elle levait un peu la main, la manche retombait, et le bras était nu jusqu'au-dessus du coude. Ce que Christophe trouva laid et malhonnête. De quel ton sec et cassant elle parlait à Louisa. Et comme Louisa lui répondait humblement, Christophe en fut saisi. Il se dissimula dans son coin pour ne pas être aperçu. Mais cela ne servit à rien. La dame demanda qui était ce petit garçon. Louisa vint le prendre et le présenter. Elle lui tenait les mains pour l'empêcher de se cacher la figure. Et bien qu'il eût envie de se débattre et de fuir, Christophe sentit d'instinct qu'il fallait cette fois ne faire aucune résistance. La dame regarda la mine effarée de l'enfant, et son premier mouvement, maternel, fut de lui sourire gentiment. Mais elle reprit aussitôt son air protecteur, et lui posa sur sa conduite, sur sa piété, des questions auxquelles il ne répondit rien. Elle regarda aussi comment les vêtements allaient, et Louisa s'empressa de montrer qu'ils étaient superbes. Elle tirait le veston pour effacer les plis. Christophe avait envie de crier tant il était serré. Il ne comprenait pas pourquoi sa mère remerciait. La dame le prit par la main et dit qu'elle voulait le conduire vers ses enfants. Christophe jeta un regard désespéré sur sa mère. Mais elle souriait à la maîtresse d'un air si empressé qu'il vit qu'il n'y avait rien à espérer, et il suivit son guide comme un mouton qu'on mène à la boucherie. Ils arrivèrent dans un jardin où deux enfants à l'air maussade, un garçon et une fille, à peu près du même âge que Christophe, semblaient se bouder l'un l'autre. L'arrivée de Christophe fit diversion. Ils se rapprochèrent pour examiner le nouveau venu. Christophe, abandonné par la dame, restait planté dans une allée sans oser lever les yeux. Les deux autres, immobiles à quelques pas, le regardaient des pieds à la tête, se poussaient du coude et ricanaient. Enfin, ils se décidèrent. Ils lui demandèrent qui il était, d'où il venait et ce que faisait son père. Christophe ne répondit rien, pétrifié. Il était intimidé jusqu'aux larmes, surtout par la petite fille qui avait des nattes blondes, une jupe courte et les jambes nues. Ils se mirent à jouer. Comme Christophe commençait à se rassurer un peu, le petit bourgeois tomba en arrêt devant lui et, touchant son habit, il dit « Tiens, c'est à moi !» Christophe ne comprenait pas. Indigné de cette prétention que son habit fût à un autre, il secoua la tête avec énergie pour nier. « Je le reconnais bien, peut-être, » fit le petit. « C'est mon vieux veston bleu. Il y a une tache là. » Et il y mit le doigt. Puis, continuant son inspection, il examina les pieds de Christophe et lui demanda avec quoi étaient faits les bouts de ses souliers rapiécés. Christophe devint cramoisi. La fillette fit la moue et souffla à son frère, Christophe l'entendit, que c'était un petit pauvre. Christophe en retrouva la parole. Il crut combattre victorieusement cette opinion injurieuse en bredouillant d'une voix étranglée qu'il était le fils de Melchior Kraft et que sa mère était Louisa, la cuisinière. Il lui semblait que ce titre était aussi beau que quelque autre que ce fût. Et il avait bien raison. Mais les deux autres petits, que d'ailleurs la nouvelle intéressa, ne parurent pas l'en considérer davantage. Ils prirent au contraire un ton de protection. Ils lui demandèrent ce qu'il ferait plus tard, s'il serait aussi cuisinier ou cocher. Christophe retomba dans son mutisme. Il sentait comme une glace qui lui pénétrait le cœur. Enhardis par son silence, les deux petits riches, qui avaient pris brusquement pour le petit pauvre une de ces antipathies d'enfant, cruelles et sans raison, cherchèrent quelque moyen amusant de le tourmenter. La fillette était particulièrement acharnée. Elle remarqua que Christophe avait peine à courir à cause de ses vêtements étroits. Et elle eut l'idée raffinée de lui faire accomplir des sauts d'obstacles. On fit une barrière avec de petits bancs et on mit Christophe en demeure de la franchir. Le malheureux garçon n'osa dire ce qui l'empêchait de sauter. Il rassembla ses forces, se lança et s'allongea par terre. Autour de lui, c'étaient les éclats de rire. Il fallut recommencer. Les larmes aux yeux, il fit un effort désespéré, et cette fois réussit à sauter. Cela ne satisfit point ses bourreaux, qui décidèrent que la barrière n'était pas assez haute, et ils y ajoutèrent d'autres constructions, jusqu'à ce qu'elle devint un casse-cou. Christophe essaya de se révolter. Il déclara qu'il ne sauterait pas. Alors la petite fille l'appela lâche et dit qu'il avait peur. Christophe ne put le supporter, et, certain de tomber, il sauta et tomba. Ses pieds se prirent dans l'obstacle. Tout s'écroula avec lui. Il s'écorcha les mains, faillit se casser la tête, et pour comble de malheur, son vêtement éclata aux genoux et ailleurs. Il était malade de honte. Il entendait les deux enfants danser de joie autour de lui. Il souffrait d'une façon atroce. Il sentait qu'il le méprisait, qu'il le haïssait. Pourquoi ? Pourquoi ? Il aurait voulu mourir. Pas de douleur plus cruelle que celle de l'enfant qui découvre pour la première fois la méchanceté des autres. Il se croit persécuté par le monde entier, et il n'a rien qui le soutienne. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Christophe essaya de se relever. Le petit bourgeois le poussa et le fit retomber. La fillette lui donna les coups de pied. Il essaya de nouveau. Ils se jetèrent sur lui tous deux, s'asseyant sur son dos, lui appuyant la figure contre terre. Alors une rage le prit. C'était trop de malheur. Ses mains qui le brûlaient, son bel habit déchiré, une catastrophe pour lui. la honte, le chagrin, la révolte contre l'injustice, tant de misère à la fois, se fondirent en une fureur folle. Il s'arc-bouta sur ses genoux et ses mains, se secoua comme un chien, fit rouler ses persécuteurs. Et comme il revenait à la charge, il fonça la tête baissée sur eux, gifla la petite fille, et jeta d'un coup de poing le garçon au milieu d'une plate-bande. Ce furent des hurlements. Les enfants se sauvèrent à la maison avec des cris aigus. On entendit les portes battre et des exclamations de colère. La dame accourut aussi vite que la traîne de sa robe pouvait le lui permettre. Christophe la voyait venir, et il ne cherchait pas à fuir. Il était terrifié de ce qu'il avait fait. C'était une chose inouïe, un crime, mais il ne regrettait rien. Il attendait, il était perdu. Tant mieux, il était réduit au désespoir. La dame fondit sur lui, il se sentit frappé. Il entendit qu'elle lui parlait d'une voix furieuse, avec un flot de paroles, mais il ne distinguait rien. Ses deux petits ennemis étaient revenus pour assister à sa honte et piaillaient à tue-tête. Des domestiques étaient là, c'était une confusion de voix. Pour achever de l'accabler, Louisa, qu'on avait appelée, parut. Et au lieu de le défendre, elle commença par le claquer, elle aussi, avant de rien savoir, et voulut qu'il demandât pardon. Il s'y refusa avec rage. Elle le secoua plus fort et le traîna par la main vers la dame et les enfants pour qu'il se mît à genoux. Mais il trépigna, hurla et mordit la main de sa mère. Il se sauva enfin au milieu des domestiques qui riaient. Il s'en allait, le cœur gonflé, la figure brûlante de colère et des tapes qu'il avait reçues. Il tâchait de ne pas penser, et il hâtait le pas parce qu'il ne voulait pas pleurer dans la rue. Il aurait voulu être rentré pour se soulager de ses larmes. Il avait la gorge serrée, le sang à la tête. Il éclatait. Enfin, il arriva. Il monta en courant le vieil escalier noir jusqu'à sa niche habituelle dans l'embrasure d'une fenêtre au-dessus du fleuve. Il s'y jeta hors d'haleine, et ce fut un déluge de pleurs. Il ne savait pas au juste pourquoi il pleurait, mais il fallait qu'il pleurât. Et quand le premier flot fut à peu près passé, il pleura encore, parce qu'il voulait pleurer, avec une sorte de rage pour se faire souffrir, comme s'il punissait ainsi les autres en même temps que lui. Puis il pensa que son père allait rentrer, que sa mère raconterait tout et que ses malheurs n'étaient pas près de leur fin. Il résolut de fuir n'importe où pour ne plus revenir jamais. Juste au moment où il descendait, il se heurta à son père qui rentrait. « Que fais-tu là, gamin? Où vas-tu ? » demanda Melchior. Il ne répondait pas. « Tu as fait quelque sottise. Qu'est-ce que tu as fait ?» Christophe se taisait obstinément. « Qu'est-ce que tu as fait ? » répéta Melchior. « Veux-tu répondre ?» L'enfant se mit à pleurer, et Melchior à crier, de plus en plus fort l'un et l'autre, jusqu'à ce qu'on entendît le pas précipité de Louisa qui montait l'escalier. Elle arriva, toute bouleversée encore. Elle commença par de violents reproches, mêlés de nouvelles gifles, auxquelles Melchior joignit, sitôt qu'il eut compris, et probablement avant, des claques à assommer un bœuf. Ils criaient tous les deux, l'enfant hurlait. Ils finirent par se disputer l'un l'autre avec la même colère. Tout en rossant son fils, Melchior disait que le petit avait raison, que voilà à quoi on s'exposait en allant servir chez des gens qui se croient tout permis parce qu'ils ont de l'argent. Et tout en frappant l'enfant, Louisa criait à son mari qu'il était un brutal, qu'elle ne lui permettait pas de toucher le petit et qu'il l'avait blessé. En effet, Christophe saignait un peu du nez, mais il n'y pensait guère, et il ne sut aucun gré à sa mère de le lui tamponner rudement avec un linge mouillé, puisqu'elle continuait à le gronder. À la fin, on le poussa dans un recoin obscur où on l'enferma sans souper. Il les entendait crier l'un contre l'autre, et il ne savait pas lequel il détestait le plus. Il lui semblait que c'était sa mère, car il n'eut jamais attendu d'elle une pareille méchanceté. Tous ses malheurs de la journée l'accablaient à la fois. Tout ce qu'il avait souffert, l'injustice des enfants, l'injustice de la dame, l'injustice de ses parents, et ce qu'il sentait aussi comme une blessure vive sans s'en rendre compte, l'abaissement de ses parents dont il était si fier devant ces autres gens méchants et méprisables. Cette lâcheté dont il prenait une vague conscience pour la première fois lui paraissait ignoble. Tout en lui était ébranlé. Son admiration pour les siens, le respect religieux qu'il lui inspirait, sa confiance dans la vie, le besoin naïf qu'il avait d'aimer les autres et d'en être aimé, sa foi morale aveugle mais absolue. C'était un écroulement total. Il était écrasé par la force brutale, sans nul moyen de se défendre, de réchapper jamais. Il suffoqua. Il crut mourir. Il se raidit de tout son être dans une révolte désespérée. Il tapa des poings, des pieds, de la tête contre le mur, hurla, fut pris de convulsions et, se meurtrissant au meuble, tomba par terre. Ses parents accourus le prirent dans leurs bras. C'était à qui des deux, maintenant, serait le plus tendre. Sa mère le déshabilla, le porta dans son lit, s'assit à son chevet et resta auprès de lui jusqu'à ce qu'il fût plus calme. Mais il ne désarmait point, il ne pardonnait rien, et il fit semblant de dormir pour ne pas l'embrasser. Sa mère lui semblait mauvaise et lâche. Il ne se doutait pas de tout le mal qu'elle avait pour vivre et le faire vivre, et de ce qu'elle avait souffert de prendre parti contre lui. Après qu'il eut épuisé jusqu'à la dernière goutte l'incroyable provision de larmes qui tient dans les yeux d'un enfant, il se sentit un peu soulagé. Il était là, mais ses nerfs étaient trop tendus pour qu'il pût dormir. Les images de tantôt recommencèrent à flotter dans sa demi-torpeur. C'était surtout la petite fille qu'il revoyait, avec ses yeux brillants, son petit nez levé d'une façon dédaigneuse, ses cheveux sur ses épaules, ses jambes nues et sa parole enfantine et poseuse. Il tressaillit en croyant réentendre sa voix. Il se rappelait combien il avait été stupide avec elle, et il se sentait contre elle une haine farouche. Il ne lui pardonnait pas de l'avoir humiliée, il était dévoré du désir de l'humilier à son tour, de la faire pleurer. Il en chercha les moyens et n'en trouva aucun. Il n'y avait nulle apparence qu'elle se souciât jamais de lui. Mais pour se soulager, il supposa que tout fut ainsi qu'il le souhaitait. Il établit donc qu'il était devenu très puissant et glorieux, et il décida en même temps qu'elle était amoureuse de lui. Alors il commença de se raconter une de ces absurdes histoires qu'il finissait par croire plus réelles que la réalité. Elle se mourait d'amour, mais il la dédaignait. Quand il passait devant sa maison, elle le regardait passer, caché derrière les rideaux. Et il se savait regardé, mais il feignait de n'y prendre pas garde, et il parlait gaiement. Il quittait même le pays, et voyageait, au loin, afin d'augmenter sa peine. Il faisait de grandes choses. Ici, il introduisait dans son récit certains fragments choisis des récits héroïques de grand-père. Elle, pendant ce temps, tombait malade de chagrin. Sa mère, l'orgueilleuse dame, venait le supplier. « Ma pauvre fille se meurt, je vous en prie, venez. » Il venait. Elle était couchée. Elle avait la figure pâle et creusée. Elle lui tendait les bras. Elle ne pouvait parler. Mais elle lui prenait les mains et les baisait en pleurant. Alors il la regardait avec une bonté et une douceur admirables. Il lui disait de guérir et consentait à ce qu'elle l'aimât. Arrivé à ce moment du récit, comme il se plaisait à en prolonger l'agrément, en répétant plusieurs fois les paroles et les attitudes, le sommeil vint le prendre, et il s'endormit consolé. Mais quand il rouvrit les yeux, le jour était venu, et ce jour ne brillait plus avec l'insouciance du matin précédent. Quelque chose était changé dans le monde. Christophe connaissait l'injustice. Il y avait des moments de gêne très étroits à la maison. Ils étaient de plus en plus fréquents. On faisait maigre chère ces jours-là. Nul ne s'en apercevait mieux que Christophe. Le père ne voyait rien. Il se servait le premier, et il avait toujours assez pour lui. Il causait bruyamment, riait aux éclats de ce qu'il disait. Et il ne remarquait pas le regard de sa femme, qui riait d'un rire forcé, en le surveillant tandis qu'il se servait. Le plat, quand il passait ensuite, était à moitié vide. Louisa servait le petit, 2 pommes de terre à chacun. Lorsque venait le tour de Christophe, Souvent, il n'en restait que trois sur l'assiette, et sa mère n'était pas servie. Il le savait d'avance, il les avait comptées, avant qu'elles arrivent à lui. Alors, il rassemblait son courage, et, d'un air dégagé, « Rien qu'une, maman. » Elle s'inquiétait un peu. « Deux comme les autres. Non, je t'en prie, une seule. »« Est-ce que tu n'as pas faim ?»« Non, je n'ai pas grand faim. » Mais elle n'en prenait qu'une aussi, et il la pelait avec soin. Il la partageait en tout petits morceaux. Il tâchait de la manger le plus lentement possible. Sa mère le surveillait. Quand il avait fini, « Allons, prends-la donc. »« Non, maman. »« Mais tu es malade, alors. » « Je ne suis pas malade, mais j'ai assez mangé. » Il arrivait que son père lui reprochât de faire le difficile et qu'il s'adjugeât la dernière pomme de terre. Mais Christophe se méfiait maintenant, et il la réservait sur son assiette pour Ernst, le petit frère, toujours vorace, qui la guettait du coin de l'œil depuis le commencement du dîner, et qui finissait par lui demander « Tu ne la manges pas ? Donne-la-moi, dit Christophe. » Ah, comme Christophe détestait son père ! Comme il lui en voulait de ne pas penser à eux, de ne même pas se douter qu'il leur mangeait leur part. Il avait si faim qu'il le haïssait, et qu'il aurait voulu le lui dire. Mais il pensait, dans son orgueil, qu'il n'en avait pas le droit, tant qu'il ne gagnerait pas sa vie. Ce pain que son père lui prenait, son père l'avait gagné. Lui n'était bon à rien. Il était une charge pour tous. Il n'avait pas le droit de parler. Plus tard, il parlerait. S'il arrivait à plus tard. Oh, il mourrait de faim avant. Il souffrait plus qu'un autre enfant de ce jeûne cruel. Son robuste estomac était à la torture. Parfois il en tremblait, la tête lui faisait mal. Il avait un trou dans la poitrine, un trou qui tournait et qui s'élargissait comme une vrille qu'on enfonce. Mais il ne se plaignait pas. Il se sentait observé par sa mère, et il prenait un air indifférent. Louisa, le cœur serré, comprenait vaguement que son petit garçon se privait de manger pour que les autres eussent davantage. Elle repoussait cette pensée, mais elle y revenait toujours. Elle n'osait pas l'éclaircir, demander à Christophe si c'était vrai. Car si ça avait été vrai, qu'aurait-elle pu faire? Elle-même était habituée aux privations depuis qu'elle était petite. À quoi sert se plaindre quand on ne peut pas faire autrement? Elle ne se doutait pas, il est vrai, avec sa frêle santé et son peu de besoins, que l'enfant dut souffrir davantage. Elle ne lui disait rien. Mais une ou deux fois, quand les autres étaient sortis, les enfants dans la rue, Melchior à ses affaires, elle priait son aîné de rester pour lui rendre quelques petits services. Christophe lui tenait sa pelote, tandis qu'elle la dévidait. Brusquement, elle jetait tout et l'attirait passionnément à elle. Elle le mettait sur ses genoux, quoiqu'il fût déjà bien lourd. Elle le serrait. Il lui passait avec violence ses bras autour du cou, et ils pleuraient tous deux, en s'embrassant comme des désespérés. « Mon pauvre petit garçon !»« Maman, chère maman !» Il ne disait rien de plus, mais il se comprenait. Christophe fut assez longtemps avant de s'apercevoir que son père buvait. L'intempérance de Melchior ne passait pas certaines limites, au moins dans les commencements. Elle n'était point brutale. Elle se manifestait plutôt par les éclats d'une joie excessive. Il disait des inepties, chantait à tue-tête pendant des heures en tapant sur la table. Et parfois, il voulait à toute force danser avec Louisa et avec les enfants. Christophe voyait bien que sa mère avait l'air triste. Elle se retirait à l'écart et baissait le nez sur son ouvrage. Elle évitait de regarder l'ivrogne. Et elle tâchait doucement de le faire taire quand il disait des grossièretés qui la faisaient rougir. Mais Christophe ne comprenait pas, et il avait un tel besoin de gaieté qu'il se faisait presque une fête de ces retours bruyants du père. La maison était triste, et ses folies étaient une détente pour lui. Il riait de tout son cœur des gestes grotesques et des plaisanteries stupides de Melchior. Il chantait et dansait avec lui. Et il trouvait très mauvais que sa mère, d'une voix fâchée, lui ordonna de cesser. Comment cela eût-il été mal, puisque son père le faisait? Bien que sa petite observation, toujours en éveil, et qui n'oubliait rien, lui eût fait remarquer dans la conduite de son père plusieurs choses qui n'étaient pas conformes à son instinct enfantin et impérieux de justice, il continuait pourtant à l'admirer. c'est un tel besoin chez l'enfant, sans doute une des formes de l'éternel amour de soi. Quand l'homme se reconnaît trop faible pour réaliser ses désirs et satisfaire son orgueil, il les reporte, enfant, sur ses parents, homme vaincu par la vie, sur ses enfants à son tour. Ils sont, ou ils seront, tout ce qu'il a rêvé d'être, ses champions, ses vengeurs. Et dans cette abdication orgueilleuse à leur profit, l'amour et l'égoïsme se mêlent avec une force et une douceur enivrantes. Christophe oubliait donc tous ses griefs contre son père, et il s'évertuait à trouver des raisons de l'admirer. Il admirait sa taille, ses bras robustes, sa voix, son rire, sa gaieté, et il rayonnait d'orgueil quand il entendait admirer son talent de virtuose, ou quand Melchior racontait, en les amplifiant, les éloges qu'il avait reçus. Il croyait à ses vantardises, et il regardait son père comme un génie, un des héros de grand-père. Un soir, vers 7 heures, il était seul à la maison. Les petits frères se promenaient avec Jean-Michel. Louisa lavait le linge au fleuve. La porte s'ouvrit et Melchior fit irruption. Il était sans chapeau, débraillé. Il exécuta pour entrer une sorte d'entrechat et il alla tomber sur une chaise devant la table. Christophe commença à rire, pensant qu'il s'agissait d'une de ses farces habituelles. Et il vint vers lui. Mais dès qu'il le vit de près, il n'eut plus envie de rire. Melchior était assis, les bras pendants, et regardait devant lui, sans voir, avec des yeux qui clignotaient. Sa figure était cramoisie, il avait la bouche ouverte. Il en sortait de temps en temps un gloussement stupide. Christophe fut saisi. Il crut d'abord que son père plaisantait. Mais voyant qu'il ne bougeait pas, il fut pris de peur. « Papa ! Papa ! » criait-il. Melchior continuait à glousser comme une poule. Christophe lui saisit le bras avec désespoir et le secoua de toutes ses forces. « Papa, cher papa, réponds-moi, je t'en supplie !» Le corps de Melchior vacilla comme une chose molle, faillit tomber. Sa tête s'inclina vers celle de Christophe. Il le regarda en gargouillant des syllabes incohérentes et irritées. Quand les yeux de Christophe rencontrèrent ses yeux troubles, une terreur folle s'empara de lui. Il se sauva au fond de la chambre, se jeta à genoux devant le lit et enfouit sa figure dans les draps. Ils restèrent longtemps ainsi. Melchior se balançait lourdement sur sa chaise en ricanant. Christophe se bouchait les oreilles pour ne pas entendre, et il tremblait. Ce qui se passait en lui était inexprimable. C'était un bouleversement affreux, un effroi, une douleur, comme si quelqu'un était mort, quelqu'un de cher et de vénéré. Personne ne rentrait. Ils restaient seuls tous deux. La nuit tombait, et la peur de Christophe augmentait de minute en minute. Il ne pouvait s'empêcher d'écouter, et son sang se glaçait en entendant cette voix qu'il ne reconnaissait plus. L'horloge boiteuse marquait la mesure de ce jacassement insensé. Il n'y tint plus, il voulut fuir. Mais pour sortir, il fallait passer devant son père. Et Christophe frémissait à l'idée de revoir ses yeux. Il lui semblait qu'il en mourrait. Il tâcha de se glisser sur les mains et sur les genoux jusqu'à la porte de la chambre. Il ne respirait pas, il ne regardait pas. Il s'arrêtait au moindre mouvement de Melchior, dont il voyait les pieds sous la table. Une jambe de l'ivrogne tremblait. Christophe parvint à la porte. D'une main maladroite, il appuya sur la poignée. Mais, dans son trouble, il la lâcha. Elle se referma brusquement. Melchior se retourna pour voir. La chaise sur laquelle il se balançait perdit l'équilibre. Il s'écroula avec fracas. Christophe, épouvanté, n'eut pas la force de fuir. Il resta collé au mur, regardant son père allongé à ses pieds. Et il criait au secours. La chute dégrisa un peu Melchior. Après avoir juré, sacré, bourré de coups de poing la chaise qui lui avait joué ce tour, après avoir vainement tenté de se relever, il s'affermit sur son séant, le dos appuyé à la table, et il reconnut le pays environnant. Il vit Christophe qui pleurait. Il l'appela. Christophe voulait se sauver. Il ne pouvait bouger. Melchior l'appela de nouveau, et comme l'enfant ne venait pas, il jura de colère. Christophe s'approcha, en tremblant de tous ses membres. Melchior l'attira vers lui et l'assit sur ses genoux. Il commença par lui tirer les oreilles, en lui faisant, d'une langue pâteuse et bredouillante, un sermon sur le respect que l'enfant doit à son père. Puis il changea brusquement d'idée et le fit sauter dans ses bras en débitant des inepties. Il se tordait de rire. De là, sans transition, il passa à des idées tristes. Il s'apitoya sur le petit et sur lui-même. Il le serrait, le couvrait de baisers et de larmes, et finalement il le berça en entonnant le De Profundis. Christophe ne faisait aucun mouvement pour se dégager. Il était glacé d'horreur. Étouffé contre la poitrine de son père, sentant sur sa figure l'haleine chargée de vin et les hoquets de l'ivrogne, mouillé par les baisers et les pleurs répugnants, il agonisait de dégoût et de peur. Il eût voulu crier, et nul cri ne pouvait sortir de sa bouche. Il resta dans cet état affreux un siècle à ce qu'il lui parut, jusqu'à ce que la porte s'ouvrit et que Louisa entra, un panier de linge à la main. Elle poussa un cri, laissa tomber le panier, se précipita vers Christophe, et avec une violence que nul ne lui aurait crue, elle l'arracha des bras de Melchior. « Ah, misérable ivrogne » cria-t-elle. Ses yeux flambaient de colère. Christophe crut que son père allait la tuer, mais Melchior fut si saisi par l'apparition menaçante de sa femme qu'il ne répliqua rien et se mit à pleurer. Il se roula par terre, et il se frappait la tête contre les meubles, en disant qu'elle avait raison, qu'il était un ivrogne, qu'il faisait le malheur des siens, qu'il ruinait ses pauvres enfants et qu'il voulait mourir. Louisa lui avait tourné le dos avec mépris. Elle emportait Christophe dans la chambre voisine. Elle le caressait, elle cherchait à le rassurer. Le petit continuait de trembler, et il ne répondait pas aux questions de sa mère. Puis il éclata en sanglots. Louisa lui baigna la figure avec de l'eau. Elle l'embrassait, elle lui parlait tendrement, elle pleurait avec lui. Enfin, ils s'apaisèrent tous deux. Elle s'agenouilla, le mit à genoux auprès d'elle. Ils prièrent pour que le bon Dieu guérît le père de sa dégoûtante habitude et que Melchior redevint bon comme autrefois. Louisa coucha l'enfant. Il voulut qu'elle restât près de son lit à lui tenir la main. Louisa passa une partie de la nuit assise au chevet de Christophe qui avait la fièvre. L'ivrogne ronflait sur le carreau. À quelque temps de là, à l'école, où Christophe passait son temps à regarder les mouches au plafond et à donner des coups de poing à ses voisins pour les faire tomber du banc, le maître qu'il avait pris en grippe, parce qu'il remuait toujours, parce qu'on entendait toujours rire et parce qu'il n'apprenait jamais rien, fit une allusion inconvenante, un jour que Christophe s'était lui-même laissé choir, à certains personnages dont il semblait vouloir suivre brillamment les traces. Tous les enfants éclatèrent de rire, et certains se chargèrent de préciser l'allusion en des commentaires aussi clairs qu'énergiques. Christophe se releva, rouge de honte, saisit son encrier et le lança à toute volée à la tête du premier qu'il vit rire. Le maître tomba sur lui à coups de poing. Il fut fustigé, mis à genoux et condamné à un pincement énorme. Il rentra chez lui, blême, rageant en silence. Et il déclara froidement qu'il n'irait plus à l'école. On ne fit pas attention à ses paroles. Le lendemain matin, quand sa mère lui rappela qu'il était l'heure de partir, il répondit avec tranquillité qu'il avait dit qu'il n'irait plus. Louisa eut beau prier, crier, menacer, rien n'y fit. Il restait assis dans son coin, le front obstiné. Melchior le roua de coups. Il hurla. Mais à toutes les sommations qu'on lui faisait après chaque correction, il répondait rageusement « non ». On lui demanda au moins de dire pourquoi. Il serra les dents et ne voulut rien dire. Melchior l'empoigna, le porta à l'école et le remit au maître. Revenu à son banc, il commença par casser méthodiquement tout ce qui se trouvait à sa portée, son encrier, sa plume. Il déchira son cahier et son livre. Le tout d'une façon bien visible, en regardant le maître d'un air provoquant. On l'enferma au cabinet noir. Quelques instants après, le maître le trouva, son mouchoir noué autour du cou, tirant de toutes ses forces sur les deux coins. Il tâchait de s'étrangler. Il fallut le renvoyer.